Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, Henri Amouroux, dans cette troisième émission, vous vous proposez de parler du troisième jour où Hitler a perdu la guerre. Je précise à nos auditeurs que les deux autres jours font l'objet de deux autres émissions disponibles dans notre médiathèque. Alors ce troisième jour où Hitler a perdu la guerre,
Vous le dire parce que personne ne le sait.
Vous voulez laisser la surprise.
Peu de gens y pensent. C'est le 11 décembre 1941. C'est le jour où Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Si vous interrogez un passant...
Mais c'est pas l'inverse ?
Non. Si vous interrogez, généralement, les personnes que vous interrogez vous diront que ce sont les États-Unis qui ont déclaré la guerre. Absolument pas. Pour une raison d'ailleurs très simple et fort compréhensible. Alors, il y avait eu Pearl Harbor, le 7 décembre, et les Américains, et les Anglais d'ailleurs, étaient en train de perdre toute leur position en Asie. Ils perdaient leurs bateaux, ils perdaient toutes les batailles, jusqu'à la bataille de la mer de Corail, c'est-à-dire en mai-juin 1942, les Américains vont perdre pratiquement tout le temps, les Anglais aussi. Alors, les Américains ne cherchaient pas à avoir un ennemi supplémentaire sur le dos. C'est Hitler qui déclare la guerre. Et ce jour-là, il déclenche l'extraordinaire puissance industrielle américaine.
Mais il le savait, je suppose.
Non, il ne le savait pas. Il faut expliquer une petite chose. Comme beaucoup de dictateurs, Hitler finissait par croire que sa propagande disait la vérité. Il avait créé Goebbels. Goebbels faisait la propagande qui est toujours la propagande, donc de la blague, du mensonge, naturellement, de la poudre de perlimpinpin. Mais Hitler finit par croire que les Américains sont ce que dit Goebbels. Et ce que disent les caricatures de l'époque, c'est-à-dire des Juifs généralement, avec le nez crochu, le gros cigare, le gros ventre, etc. Et Goebbels disait, ces Américains, ils sont capables de rien d'autre que de fabriquer des automobiles et des lames de rasoir. Seulement, vous mettez en branle l'industrie américaine et vous allez avoir une transformation prodigieuse. Bien sûr, les Américains perdent d'abord la guerre contre les Japonais, naturellement. Et les Japonais ont la maîtrise du Pacifique. C'est vrai. Mais pendant quelques mois, 6 mois, 7 mois. Et puis vous avez la bascule qui va se faire en juin 1942. Je reviendrai sur deux éléments très importants tout à l'heure. Et j'ai dit que le fait que l'Angleterre ne soit pas envahie provoque Montoire. Le fait de l'attaque sur la Russie provoque naturellement la mobilisation dans tous les pays où il y a des communistes, et il y en a dans tous les pays occupés, provoque la mobilisation des communistes. Qui prennent parti violemment contre l'armée allemande. Ils avaient été contraints par le pacte germano-soviétique.
D'adhérer.
Et si vous prenez l'humanité clandestine, parce qu'elle avait été interdite par Daladier. Et d'ailleurs, les communistes français demandent aux Allemands, lorsque les Allemands entrent en Paris le 14 juin 1940, ils leur demandent l'autorisation de refaire publier l'humanité. Et c'est parce que Vichy s'y oppose en faisant arrêter les gens qui sont allés demander l'autorisation qu'il n'y a pas eu d'autorisation. Sans ça, l'humanité aurait reparu sous tutelle allemande. Et heureusement pour les communistes, ça ne s'est pas fait. Vous imaginez la situation. Ça aurait duré 3 mois, 6 mois, mais ça aurait été un fait. Alors là, les choses sont nettes. Les communistes entrent en jeu et vous aurez les attentats, les premiers attentats, avec les représailles et les affiches jaunes sur les murs de Paris, etc. De même, l'entrée en guerre de l'Allemagne contre les États-Unis redonne de l'espoir à toute la population française. On se dit, ça y est, la Russie, l'Angleterre, les États-Unis, bon, c'est une question de temps. Et puis, l'Alliance va gagner, va vaincre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les Allemands croyaient à leur propagande. Hitler y croyait. Il croyait que c'était comme ça. Et lorsqu'il avait rencontré le maréchal Pétain à Montoire, il lui avait dit, moi, l'an prochain, je fabriquerai 2 fois plus d'avions. C'est bien sûr, l'Allemagne fabrique d'avions. Elle va même en fabriquer beaucoup plus que 2 fois plus. Car un homme comme Speer, qui va commander tout le réarmement allemand...
Albert Speer
est un homme qui est un homme remarquable, du point de vue du réarmement allemand. Il va fabriquer dans des conditions effroyables, avec des bombardements qui écrasent toutes les usines... Mais ils vont travailler dans des souterrains, dans des grottes, enfin ils vont en faisant travailler d'ailleurs des déportés souvent. Mais l'industrie américaine travaille à l'air libre.
Bah oui, elle n'est pas attaquée.
Il n'y a pas de missiles intercontinentaux. Il n'y a pas la bombe atomique. Elle est à venir. Il n'y a pas de... Donc, ils peuvent travailler tranquillement et fabriquer un prodigieux matériel. C'est prodigieux. Pour citer un chiffre, je ne veux pas aboutir les lecteurs avec des chiffres. Ils partent avec 3000 avions. Ils ne pouvaient même pas en vendre. Ils en vendaient à peine à la France. Ils finissent, ils en ont construit 88 000 dans l'année. Ils vont construire des porte-avions, ils en construisent 30 porte-avions et ils construisent 65 porte-avions d'escadre. Porte-avions de l'appui, si vous voulez, des navires transformés en porte-avions. Cette puissance industrielle américaine prodigieuse qui va nourrir la Russie, parce qu'alors là, ça va se mettre en marche avec des convois qui subiront quelquefois des pertes considérables. Un convoi perdra la moitié de ses navires. La moitié, avec tout ce qu'il y avait à bord, naturellement. Mais les convois finiront par arriver, apporteront des avions, je crois 12 ou 13 000 avions russes, apporteront une vingtaine de milliers de chars, apporteront du ravitaillement, des médicaments, bref, et apporteront aussi la certitude de l'Alliance. Alors, cette industrie américaine est telle qu'il y a deux phénomènes dont il faut parler tout de suite. Les Allemands méprisaient les Américains, ne connaissaient pas les Américains, ne connaissait pas la puissance. Le premier bombardement, c'est au mois d'août de l'aviation américaine, c'est au mois d'août 1942, sur la France d'ailleurs, je crois que c'est sur Rouen, et après évidemment il y en aura beaucoup sur l'Allemagne, avec quelquefois 1000 avions. Et l'événement le plus symptomatique est le suivant. Vous savez qu'en novembre 1942, il y a le débarquement en Afrique du Nord. Et le débarquement en Afrique du Nord, c'est un débarquement essentiellement américain. Il y a des Anglais, mais c'est essentiellement américain. Trois convois. Un convoi marche toujours à la vitesse du navire le plus lent. Trois convois traversent l'Atlantique, c'est-à-dire des centaines de navires, pour aller vers les ports français du Maroc, d'Algérie. Eh bien, pas un navire n'est perdu par ces trois convois. Moins d'un an, 11 mois après la déclaration de guerre, après l'entrée en guerre des États-Unis, les États-Unis peuvent faire traverser l'Atlantique à trois convois sans perdre un seul bateau.
Mais ça prouve que leurs avions sont efficaces.
Leurs avions
évidemment
sont efficaces. Ça veut dire que les sous-marins allemands sont inefficaces. Pourquoi? Parce que les Américains et les Anglais ont mis le radar, comme nous avons les radars,
le radar, voilà.
À bord de nos voitures, nous avons un radar. Nous avons bien un radar de recul, nous avons bien un radar pour nous montrer qu'il y a, nous avons touché un mur. Bon. Eh bien, il y a des radars qui voient, qui repèrent les sous-marins et qui permettent la destruction des sous-marins. Les sous-marins allemands ne peuvent plus faire surface, ne peuvent plus recharger leurs accus à l'air libre et sont condamnés à la destruction. Les sous-mariniers allemands, c'était tous des volontaires, sont des volontaires à 4 sur 6, volontaires pour la mort. 4 sur 6 vont périr, sûrement. Bon, ils étaient volontaires, ils savaient qu'ils mouraient. C'est-à-dire, quand ils revenaient de mission, après ils prenaient du bon temps à Paris, ils avaient 23 ans ou 24 ans, ce sont des choses qui s'expliquent. Ils faisaient même des enfants, je connais des histoires qui sont arrivées comme ça. Mais c'est la vie
quotidienne. Ils savaient qu'ils allaient mourir.
C'est la vie quotidienne, ils savaient qu'ils allaient mourir, certainement. Alors les Américains seront l'arsenal de la démocratie dans une guerre qui est une guerre où la Russie apporte les hommes, des millions d'hommes, et l'Amérique apporte son industrie. Son industrie qui lui permet d'économiser ses hommes. Car j'ai dit 10 millions de morts du côté russe et moins de 400 000, 350, je crois, du côté américain. Donc, 40 000 aviateurs, car les aviateurs ont beaucoup souffert. 40 000 aviateurs.
On n'ose pas dire que c'est très peu, mais les chiffres sont très disproportionnés.
Les chiffres sont très disproportionnés. Pourquoi? Parce que l'armée américaine, lorsqu'il y avait un village tenu par l'ennemi, elle a envoyé des obus pour économiser les hommes. Après, elle a envoyé les hommes et l'ennemi a été tué. Alors, ça va permettre la mise en œuvre à travers une alliance difficile, parce que Churchill Roosevelt, Staline ne s'entendait pas du tout, pas beaucoup, enfin, il s'entendait bien sûr contre l'Allemagne. Mais par exemple, Staline réclamait d'urgence le second front. Parce que les Allemands sont d'abord battus dans la campagne d'hiver. Mais ils repartent pour la campagne de printemps qui va les mener jusqu'à Stalingrad, jusqu'au Caucase. Ils repartent. Et il gagne à nouveau.
Ben oui, on est quand.
Et après, ils vont reperdre. Mais c'est ça, c'est un aller-retour. Donc, les Russes qui souffraient beaucoup, considérablement, étaient sans cesse à tirer la sonnette, à dire mais quand ferez-vous le second front ? Et les Anglais et les Américains ne voulaient pas faire une expérience coûteuse. Ils ont fait l'expérience de Dieppe. Il y a eu un débarquement à Dieppe, vous savez. Bon, ça a été un échec sanglant. Ils ont tiré beaucoup d'enseignements. D'abord, ils ont débarqué face à un port. On se dit, il faut un port pour débarquer. Ils ont découvert après qu'on pouvait se passer de port à condition de créer un port artificiel. C'est ce qu'ils vont créer, des ports artificiels. Et puis, ils vont dire, on ne peut pas engager les chars dans telle et telle condition. Dieppe va leur servir de terrain sanglant d'expérience. Mais
bon, tirer mais les faut, profits, en
il
fait.
Il faut
oui.
préparer pendant des mois et des mois et des mois l'opération de débarquement en Normandie que les Américains et De Gaulle, qui ne pesaient pas lourd, mais enfin, pas lourd dans l'Alliance, voulaient en Normandie, tandis que Churchill la voulait pas du tout en Normandie, il la voulait dans les Balkans. Churchill était partisan d'un débarquement par l'Italie, puisque vous savez que les troupes anglo-franco-américaines ont débarqué en Italie et sont remontées, ont pris Rome, etc. Churchill voulait que ses troupes poursuivent. Les troupes françaises étaient dirigées par le général Juin, commandées par le général Juin, poursuivent et attaquent l'Allemagne dans le cœur par l'Autriche.
Et les Américains, eux, préféraient les côtes.
Préféraient l'attaque par la Normandie. C'est eux qui l'ont emporté. C'est pourquoi il y a eu le débarquement en Normandie. Alors, débarquement en Normandie qui a demandé des jours et des jours de préparation. Mais si l'Allemagne ne déclare pas la guerre, parce qu'on me dit, oui, c'est un jour comme un autre. Non, c'est pas du tout un jour comme une autre. Réfléchissons. Réfléchissons, là, comme ça, en parlant. Le 11 décembre 1941, l'Allemagne déclare la guerre. Supposez que l'Allemagne ne déclare pas la guerre, parce que le Japon ne lui demandait pas de déclarer la guerre. Pas ça du tout. Le Japon ne demandait rien à l'Allemagne. Supposez que l'Allemagne ne déclare pas la guerre. Certes, un jour, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. Quel jour ? Peut-on me dire quel jour ? On ne peut pas me dire quel jour. S'ils entrent en guerre 6 mois après, quand ils ont un peu repris, j'ose dire, du poil de la bête, et lorsqu'ils ont battu les Japonais dans la bataille de la mer de Corail, qui est une bataille entre porte-avions, d'ailleurs les navires ne s'affrontent pas. Les navires japonais et américains sont détruits par des avions venus de leurs porte-avions respectifs. C'est une bataille hors la vue des navires qui sont là. Supposez que les Américains ne soient pas attaqués par les Allemands le 11 décembre. Quand déclare-t-il la guerre ? Mettons en juillet 42. Mais alors il n'y a pas de débarquement en Afrique du Nord en novembre 42. C'est pas possible. Il n'y a pas de débarquement en Italie encore au début 43. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de débarquement en Normandie en 44.
Donc c'est bien cette déclaration de guerre de 41 qui fait changer les choses.
De décembre 41 qui fait tout changer. Car vous repoussez le curseur et dites-vous, mais pourquoi les Allemands déclarent-ils la guerre ? Je vais vous dire pourquoi, mon idée, hein. Je ne suis pas dans les plans. Cette histoire a dû être poussée, comme ça s'était fait dans la guerre précédente, par l'état-major naval. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, l'Allemagne et les États-Unis n'étaient pas en guerre, mais l'Allemagne était très en colère, parce que les Américains aidaient très visiblement les Anglais. Par exemple, la marine américaine escortait jusqu'à la moitié du chemin de l'Atlantique les convois anglais. Oui. Après, c'était la marine anglaise qui prenait le relais. Les sous-marins allemands hésitaient beaucoup à attaquer les navires américains qui protégeaient. Ils ne les attaquaient pas. C'était un casus belli. Il y en a en coulé un ou deux.
Ils attendaient que ce soit les Anglais qui prennent le relais.
Que ce soit les Anglais. Mais les Anglais avaient économisé ainsi la moitié de leurs navires, puisqu'ils ne prenaient que la moitié du chemin. Ensuite, les Américains fournissent des armes. Ils fournissent des armes aux Anglais, ils fournissent des armes aux Russes. Ils les fournissent par des bateaux qu'on ne peut pas couler, vous comprenez ? Alors, les Anglais et les Allemands, l'état-major allemand dit ce qui avait été dit en 1917. Il serait quand même plus simple de déclarer la guerre aux
Comme
États-Unis.
Ça, on pourrait couler
Comme
les
ça,
bateaux.
On pourrait couler
oui,
les bateaux.
Absolument.
Effectivement, ils vont couler les bateaux. Non seulement ils vont couler les bateaux, mais ils avaient prévu d'envoyer des sous-marins qui s'étaient installés devant les côtes américaines avant la déclaration de guerre. C'était les sous-marins de croisière qui pouvaient rester des semaines sous l'eau et qui ont torpillé des pétroliers qui sortaient des ports américains, lesquels ports américains étaient tout illuminés, éclairés, les phares marchaient, parce que les Américains pensaient au Japon, ils ne pensaient pas du tout aux Allemands. Après, évidemment, ils ont compris, au bout de quelques jours, que c'était des sous-marins allemands. Mais au début, ils croyaient que c'était des mines qui avaient été posées là, et des mines, quelquefois même peut-être des mines américaines, qui explosaient. Alors, cette mise en route de l'énorme machine américaine, qui était inconnue des Allemands, certes, il y avait des Allemands qui la connaissaient, bien entendu, des ambassadeurs, et puis des techniciens, tout ça, tout un tas de gens la connaissaient. Mais Hitler ne connaissait pas.
Et ils n'ont pas eu gain de cause, de toute
façon. Mais le dictateur a toujours raison. C'est le problème du monsieur ou la dame qui a toujours raison.
Écoutait-il les conseils, d'ailleurs?
Non. D'abord, peu de gens se mêlaient de lui donner des conseils. On ne donne pas beaucoup de conseils à un dictateur. Conseils, non, on ne donne pas. On dit des opinions, on dit des avis. Il écoute au moment de 40, il fait le choix, qui est le choix pour l'Allemagne, bénéfique, pour la France maléfique. Il choisit la jeune école, celle de la guerre éclair, contre ceux qui vivaient la guerre comme l'état-major français, qui était majoritaire d'ailleurs, comme dans l'état-major français, qui voyait la guerre comme la suite de 1918. Alors, ils étaient majoritaires dans l'état-major allemand, et Hitler choisit Guderian, qui lui était pour la guerre à Caire, et l'attaque à Sedan, qui était une attaque folle en principe. Attaquer à Sedan, passer par la forêt des Ardennes, ça allait contre toutes les théories militaires. Ça n'avait pas de bon sens. Et c'était là qu'il fallait passer.
Mais donc il a écouté. Là,
Il a tranché, il a dit entre tranché. Deux planches.
Là, il a pris pour lui la bonne décision.
Il a pris la bonne décision. Si vous voulez une conclusion, je vais vous donner une conclusion. Parce que je pense, j'ai dit en débutant, que ce qui s'est passé il y a longtemps déjà, impressionne toujours, influence toujours notre époque. En 45, c'est la fin de la guerre. En mai 45, Hitler se suicide dans son bunker, les Anglais, les Américains et les Russes se rejoignent sur l'Elbe, la guerre est finie, et je vais vous dire ce que je crois, l'Europe a perdu. Toute l'Europe a perdu. L'Allemagne est écrabouillée, l'Italie est occupée. Et je recommande à nouveau ce livre de Malaparte qui s'appelle « La peau », qui est un livre remarquable. La France est libérée, mais le général de Gaulle a tendu devant la France un manteau d'orgueil plein de trous et de misère. Et vous savez qu'il faudra pour l'Europe le plan Marshall, et pour l'Europe et pour l'Angleterre victorieuse, mais qui est tellement effondrée et épuisée par sa victoire, qu'elle renvoie Churchill qui l'avait sauvée, qu'elle renvoie avant la fin de la guerre, avec une ingratitude monstrueuse. Churchill est battu aux élections, son parti est battu, et vient au pouvoir les travaillistes, qui vont faire la sécurité sociale pour tout le monde, le bonheur pour tout le monde, et qui vont amener l'Angleterre à une misère que j'ai pu constater d'ailleurs, mais en dedans, quelques années plus tard. Bon, mais bon, l'Europe est finie ce jour-là. Et ce jour-là, c'est aussi un jour où tout change. Parce que un jour, je ne sais pas la date, de 45-46, la flotte anglaise abandonne la Méditerranée et la 6e flotte américaine vient s'installer en Méditerranée. Ce jour-là, l'Europe a perdu. Il n'y a plus d'Europe. Il y a l'Europe, naturellement. Mais c'est les États-Unis qui vont régler tous les problèmes européens. À travers le plan Marshall, d'abord, qui va venir au secours de l'Europe, qui est affamée, misérable. Pourquoi le plan Marshall? C'est pour éviter que le communisme triomphe dans l'Europe entière.
Exsangue, oui,
c'était affamé. Il faut savoir que les communistes grecs, alors que la guerre était finie, continuaient la guerre.
Bien sûr, la guerre civile a duré très longtemps.
La guerre civile a duré longtemps en Grèce. Il faut savoir que Tito, en Yougoslavie, n'était pas l'allié de Staline, puisqu'il va se retourner contre Staline. Mais il était communiste et la Yougoslavie était communiste. Il faut le savoir. Il faut savoir que la Belgique, il y avait eu, au moment où la guerre n'était pas encore finie, il y avait des bandes communistes venues à Bruxelles pour essayer de prendre Bruxelles, d'occuper Bruxelles et d'installer un pouvoir communiste à Bruxelles. Il faut savoir tout ça, que la misère était en train de faire gagner la partie aux communistes. Et qui a permis la création de l'Europe? C'est bien sûr Schuman, c'est bien sûr Adenauer, c'est bien sûr Gasperi, c'est bien sûr, mais c'est d'abord Staline. Car s'il n'y avait pas Staline et la guerre froide, eh bien, l'histoire aurait tourné autrement. Car c'est parce qu'il y a Staline et la guerre froide que vous avez à ce moment-là la nécessité pour les Alliés, 4 ans, 5 ans après la fin de la guerre, en 1950, de ne plus considérer les Allemands de l'Ouest en ennemis, mais de les considérer en partenaires, puis ensuite en alliés, et puis après de créer une armée allemande. Mon fils a été soldat d'occupation en Allemagne, il était à Berlin, quand il y avait le mur, la séparation, les quatre puissances occupantes. Il me racontait qu'il ne pouvait pas aller au restaurant, quand il allait au restaurant, tout était payé par les Allemands. Ils ne pouvaient pas payer. Pourquoi ? Parce que les Allemands payaient, parce qu'ils se disaient, c'est quelques soldats français qui sont là, 3 000 ou 4 000, 10 000 ou 12 000 Anglais, 10 000 ou 12 000 Américains. Ils nous protègent de millions de Russes, parce qu'il y avait ce petit contingent isolé dans ce Berlin quadripartite, où il y avait le secteur français, le secteur anglais, le secteur américain, le secteur russe. Mais les Russes savaient très bien qu'ils pouvaient évidemment
balayer tout ça, oui.
Balayer en quelques minutes ces soldats qui étaient là, mais que la guerre éclatait.
Ils ne le faisaient pas.
Donc ils voulaient pas la guerre. Ils voulaient pas la guerre. Et c'est parce qu'il y a eu la guerre froide, qu'il y a eu le plan Marshall, qu'il y a eu ce qu'on n'a pas commis vis-à-vis de l'Allemagne, les mêmes bêtises que le traité de Versailles. Car Hitler est né du traité de Versailles qui était beaucoup trop dur. Lorsqu'on pense qu'en 1943, les Allemands auraient dû encore nous payer des réparations au titre du traité de Versailles, et que c'était nous qui donnions 450 millions par jour aux Allemands, eh bien, il y a quand même quelque chose qui devrait inciter à réfléchir. Et ce jour-là, c'est pas l'Europe, bien sûr, a été libérée d'Hitler, bien sûr, a été libérée de l'Allemagne dominante, mais tous les pays d'Europe ont perdu. Il y a eu la domination d'abord de la Russie et des États-Unis, puis après des États-Unis. En tout cas, les problèmes qu'on voit régler aujourd'hui à Washington, les problèmes du Moyen-Orient, les problèmes des Balkans qu'on voit régler à Washington, ce sont des problèmes qui ont été réglés par la France, qui ont été réglés par l'Angleterre, qui connaît beaucoup mieux les problèmes irakiens, car les Anglais connaissent beaucoup mieux les problèmes irakiens que ne connaissent les Américains. Tout ça vient du jour où la guerre a commencé en 1939 et où on est parti pour une histoire dont on ne savait pas la fin. Vous savez, la guerre, on ouvre la porte. C'est facile. Il est très facile d'ouvrir la porte de la guerre. Il est très difficile de refermer la porte de la guerre. Et entre la porte ouverte et la porte fermée, quand on ouvre la guerre, la porte, on ne sait pas combien il y aura de millions de morts avant qu'on le ferme la porte. Et là, je sais qu'entre les morts civiles, les déportés, les juifs assassinés, les victimes des bombardements, les victimes des combats, il y en a eu peut-être 60 ou 70 millions. C'est-à-dire la population actuelle de la France qui a été liquidée, hommes, femmes et enfants. Voici ce qui s'est passé.
Henri Amouroux, merci. Je rappelle que vous venez là de nous raconter la troisième journée où, selon vos analyses, Hitler a perdu la guerre. Et je précise que les trois émissions, donc la première émission, le jour où Hitler a renoncé à envahir l'Angleterre, le 14 septembre 1940, la deuxième émission est consacrée au 22 juin 1941, lorsque Hitler a déclaré la guerre à la Russie. Et le troisième jour, vous venez d'en parler, le 11 décembre 1941, lorsque Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Henri Amouroux, merci infiniment d'avoir passé cette série avec Canal Academy et de nous avoir permis de mieux comprendre cette guerre qui n'a pas duré 3 jours, mais 5 ans. À bientôt.